web, Juliette Rangeval.
Bonjour, la crise au sommet de l'État entre Paris et Alger va s'intensifiant avec l'arrestation cette semaine d'influenceurs algériens haineux envers la France, avec aussi les propos d'Emmanuel Macron qui a mis en cause l'honneur de l'Algérie dans l'affaire Sainte-Salle devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée. Nous en parlons avec le chercheur Adlan Mohamedi dans un instant. Nous évoquerons également la décennie noire, la guerre civile algérienne des années 90, à travers le roman d'Amina Damerji, Bientôt les vivants, publié chez Gallimard en France et chez Barzac en Algérie. Ce roman a obtenu en fin d'année le prix des lycéens de la littérature arabe. Bonjour Adlan Mohamedi.
Bonjour.
Vous êtes chercheur enseignant en géopolitique. Avec vous, on va parler des relations de la France et de l'Algérie qui traversent une nouvelle crise depuis l'été dernier. Est-ce que vous êtes optimiste sur les mois qui vont venir pour cette relation entre ces deux pays ?
Là, effectivement, on a la pire relation franco-algérienne possible depuis l'indépendance. Les relations n'ont jamais été aussi mauvaises. Et donc, on espère que ça n'ira pas très loin. Mais effectivement, on ne peut pas espérer une détente tout de suite.
On peut rappeler ce qui est au cœur de cette crise. Il y a la reconnaissance au mois de juillet par la France de la marocanité du Sahara occidental qui a beaucoup fâché à Alger. Il y a l'affaire Boualem Sansal récemment.
Oui, absolument. Alors, le principal élément du côté algérien, c'était la reconnaissance, effectivement, de la marocanité du Sahara occidental. Ça a exacerbé un petit peu des tensions qui ont toujours été là, parce que les tensions sont toujours liées à des questions mémorielles, historiques, etc. Les relations franco-algériennes ont toujours été particulièrement tendues. Et évidemment, l'arrestation d'un écrivain franco-algérien sur le sol algérien a poussé une bonne partie de la classe politique française à tenir des propos plutôt très critiques à l'égard du pouvoir algérien.
On a vu, ça a été tout de suite récupéré côté français, notamment par les milieux proches de l'extrême droite en particulier. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de fondateur dans cette relation franco-algérienne, cette façon dont l'extrême droite vient toujours chercher le problème algérien? On l'a vu avec la mort de Jean-Marie Le Pen.
Oui. Oui, tout à fait. Dans les deux cas, on a une relation diplomatique qui est directement liée à des questions de politique intérieure. Alors en Algérie, c'est une évidence parce que la propagande officielle fait de la France une cible forcément privilégiée. Ça, c'est un classique.
C'est l'ennemi éternel.
C'est l'ennemi éternel et ça permet aussi de se relégitimer auprès de l'opinion publique algérienne puisqu'il y a une carence en termes de légitimité démocratique. Mais on oublie aussi parfois que côté français aussi, on le fait de plus en plus. Et étrangement, les relations avec le Maroc et avec l'Algérie trouvent une espèce de corollaire dans la vie politique intérieure française, puisque dès la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, on a vu toute la droite et l'extrême droite française se réjouir de cette action, et bien sûr, toute une droite et une extrême droite française largement critiquer le pouvoir algérien et plus généralement l'Algérie. Donc il y a cela, il y a aussi, au-delà même de l'extrême droite, du Rassemblement national, etc., on a toujours aussi la tentation chez les dirigeants en France d'utiliser la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure. La ritournelle sur le traité franco-algérien en matière d'immigration qui a été reprise par l'actuel ministre de l'Intérieur.
C'est un accord donc qui date de 1968, qui donc est au départ un traité dérogatoire sur la condition de l'entrée et du séjour des Algériens en France. Et puis petit à petit, à travers les années, quand même, il a été vidé beaucoup de sa substance.
Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'on fait croire à l'opinion publique française que les ressortissants algériens sont chouchoutés, privilégiés,
favorisés.
Par l'administration française. Je pense qu'il suffit de faire la queue devant une préfecture pour se rendre compte qu'être algérien n'est absolument pas un privilège en France. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens se retrouvent sans carte de séjour à cause de problèmes d'ailleurs qui dépassent la relation franco-algérienne, à cause des carences dans l'administration française. Mais comme vous le disiez, effectivement, l'accord a été vidé de sa substance puisque le droit commun, en réalité, des étrangers a fini par être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple que l'accord bilatéral.
Sur l'affaire Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté à Alger, il y a énormément de préoccupations sur son état de santé aujourd'hui. Le président français s'en saisit. On n'a pas l'impression que ce soit de nature à permettre une libération prochaine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, sur ce sujet, sortir du tête-à-tête entre Paris et Alger ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un autre pays vienne jouer les tierces parties?
Je suis d'accord avec vous, le tête-à-tête franco-algérien ne permet pas d'obtenir grand-chose. Ce qui gêne aussi, c'est qu'au-delà de tout ce qui est problématique gênante dans l'évolution du régime en Algérie, c'est-à-dire une crispation presque inédite, une mentalité d'assiégé qui atteint des niveaux improbables, un niveau de répression aussi qui est terrifiant. Mais au-delà de ça, il y a en face aussi un manque de cohérence. C'est-à-dire qu'on a affaire en France quand même à des dirigeants qui ont soutenu le pouvoir algérien face au Hirak, face au soulèvement populaire. C'est-à-dire qu'on a manifesté ostensiblement une espèce de confiance à l'égard du président algérien qui a été élu quand même dans des conditions douteuses. En 2022, quand il y a cette grande visite officielle à Alger, avec le président français, une délégation qui incluait y compris des responsables militaires, il y avait déjà une répression en Algérie. Il y avait déjà des prisonniers politiques en Algérie. Il y avait déjà des journalistes condamnés en Algérie. Donc, on fait semblant de découvrir cela quand il y a un écrivain franco-algérien. Et ça, effectivement, cette absence de cohérence est forcément de nature à discréditer quand même la position française.
Aujourd'hui, au vu de cette relation qui est donc extrêmement difficile, quelles sont les conséquences concrètes pour les sociétés françaises ou algérienne?
Alors, déjà, je pense qu'une bonne partie de la population algérienne a appris à vivre à l'abri du pouvoir en place. Donc, culturellement, une bonne partie de la population algérienne conserve quand même des liens importants avec la France, sachant qu'on a quand même des millions de binationaux, ce qui implique quand même des relations familiales, interpersonnelles qui restent importantes. Donc, on n'est pas dans le cas d'une population qui avale intégralement la propagande officielle. Donc, il y a cela. Côté français, on a pour l'instant tendance quand même à ménager les relations consulaires. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cas de la rupture algéro-marocaine. Il y avait la rupture diplomatique, même si on n'en est pas là pour la relation franco-algérienne, c'est le risque, on va dire, majeur. Mais on a tendance à préserver les relations consulaires pour que les ressortissants quand même concernés puissent continuer quand même de vivre normalement, de pouvoir renouveler leur carte d'identité, leur passeport, leur carte consulaire, etc., dans des conditions normales. Donc pour l'instant, il y a une espèce de vitrine de la normalité. Mais par contre, la tendance, elle, elle est plus inquiétante puisqu'il y a une volonté quand même de plus en plus d'effacer toute trace de culture française exprimée par le pouvoir algérien. On manifeste l'envie de remplacer par exemple la langue française par l'anglais dans les lieux publics, même si les plus anciennes générations ne comprennent en général que le français. Il y a cette volonté quand même d'atteindre une espèce de divorce culturel. Mais ironiquement, si on devait atteindre ce divorce culturel, si les nouvelles générations n'avaient plus aucun lien avec la France, la ritournelle anti-française n'aurait plus aucun sens.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une nouvelle crise des visas, comme il y a eu quand la France a refusé d'octroyer des visas aux pays d'Afrique du Nord en 2021?
Alors, c'est évidemment une option. Il ne faut pas oublier que la crise des visas était liée à un dossier précis, c'est-à-dire celui des OQTF et des laissez-passer consulaires. Je pense que c'est un problème qui concerne les trois pays. On a quand même tendance à insister sur les différences, notamment entre l'Algérie et le Maroc. Et c'est aussi une tendance inquiétante, puisqu'on a une espèce de discours ambiant qui consiste à nous faire croire que ces deux pays sont radicalement différents, que le Maroc, c'est un pays génial, c'est la start-up nation, c'est un pays très fluide. Le président français a récemment parlé de relais pour la politique française en Afrique. Donc tout irait bien côté marocain, et l'Algérie serait un pays où plus rien n'est possible, où il ne faut plus rien espérer. C'est problématique, puisque en réalité, ces deux pays sont beaucoup plus proches qu'on a tendance à le dire. Les relations franco-algériennes ne sont pas si différentes des relations franco-marocaines. Certaines questions se posent à peu près de la même manière pour les deux pays. Donc, je pense que cette idée selon laquelle on pourrait sacrifier la relation franco-algérienne au profit de la relation franco-marocaine est une idée gênante, puisque la relation franco-algérienne n'est pas sacrifiable, ni pour la France, ni pour l'Algérie aujourd'hui.
Quand vous dites ça, est-ce que c'est parce que la France prend acte des difficultés qu'a l'Algérie avec son environnement immédiat, et notamment avec sa frontière sud, alors que le Maroc pourrait servir de tête de pont vers le reste du continent africain, où on sait que Paris est également en difficulté?
Bien sûr, je pense que c'est l'idée qui domine aujourd'hui dans la diplomatie française. C'est l'idée selon laquelle l'Algérie est isolée à l'échelle régionale. L'Algérie n'a pas une grande influence sur le dossier libyen. Au sud du pays, l'Algérie n'a pas l'influence qu'elle pouvait avoir avant. Alors que le Maroc, c'est le relais naturel, idéal pour les relations avec l'Afrique subsaharienne. C'est une idée qui est gênante parce que, un, le pouvoir algérien est certes isolé, mais il ne l'est pas totalement, puisque les relations avec la Tunisie sont très bonnes. Il y a une sorte de convergence autoritaire entre l'Algérie et la Tunisie qu'il faut quand même garder en tête. Deux, il ne faut pas aussi oublier que le Maroc avec sa normalisation avec Israël, s'est aussi isolée à l'échelle régionale. Donc cette volonté d'exacerber, d'exagérer les différences et de désigner l'excellent élève et le mauvais élève, c'est forcément problématique.
Vous êtes spécialiste des relations de la Russie avec le monde arabe. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris ne pourrait pas trouver avec Alger, vis-à-vis de Moscou, un point commun? Parce qu'on sait que à la fois l'Algérie est proche de Moscou et en même temps, on fait très attention et très méfiant vis-à-vis, par exemple, des mercenaires de Wagner.
Oui, il y a d'un côté de très bonnes relations bilatérales, mais de l'autre, on peut dire que la Russie, à l'échelle régionale, a fait à peu près tout ce qui pouvait gêner le pouvoir algérien, en Libye comme au Mali. Dans les faits, on a des relations qui sont très flexibles à l'échelle régionale. C'est-à-dire qu'on voudrait identifier des axes, etc. Mais là où la Russie quand même réussit un peu son jeu dans la région, c'est qu'elle réussit quand même à compartimenter ses relations bilatérales. Elle essaye de faire en sorte que les relations soient bonnes avec l'Algérie sans pour autant vouloir sacrifier les relations avec le Maroc. Et on parle de la Russie, mais on pourrait aussi parler des États-Unis. Les Américains ont fait preuve de la même flexibilité. Et même l'image des États-Unis en Algérie n'est pas mauvaise. On a tendance à reprocher la politique israélienne au Maroc, à la France, mais jamais à Washington en Algérie. La France, en réalité, en termes d'image, elle est en perte de vitesse vis-à-vis de ses adversaires comme la Russie, mais aussi de certains alliés.
Carrefour du Maghreb, avec Juliette Rangeval.
C'est un livre qui met en scène Selma et sa famille dans l'Algérie des années 90, un livre qui raconte l'amour de cette jeune fille pour un cheval et pour la forêt de Baïnem, près d'Alger, où elle va monter tous les jours de vacances, et qui raconte comment cette adolescence va être confrontée à la guerre civile algérienne. Bonjour Amina Damerji.
Bonjour.
Ce livre, vous en êtes l'autrice. Bientôt Les Vivants est publié en France chez Gallimard. Il a obtenu le prix Transfuge et plus récemment le prix des lycéens de la littérature arabe. Vous avez grandi à Alger pendant votre enfance, pendant la décennie noire. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Mon premier souvenir de la décennie noire, en tout cas du moment où je me rends compte que mon quotidien de petite fille va changer, c'est ce jour où ma mère me dit « Nous ne pouvons pas aller à Baïnem ce week-end, des terroristes ont envahi la forêt. » Et donc ce lieu qui était un lieu de magie est devenu un lieu dangereux, un lieu où l'on trouvait régulièrement des cadavres, des morts, où il était vraiment risqué de se promener. Et ça, je crois, dans l'imaginaire d'une petite fille, ça m'a frappée en tout cas.
Vous avez vécu en Algérie jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à 7 ans. Mais alors après, aller comprendre la logique à tout cela, nous partions parce que c'était dangereux de rester en Algérie. Et puis après quelques temps, nous nous sommes mis à revenir en Algérie toutes les petites et toutes les grandes vacances. Ce qui fait, si mes calculs sont bons, à peu près 4 mois par an. Ce qui fait que j'ai continué à garder un lien très très fort jusqu'à à peu près mes 18 ans avec l'Algérie et Alger plus particulièrement.
Vous y allez encore ?
Oui, j'y vais encore régulièrement.
Et sur quoi vous êtes-vous basé pour écrire ce livre ?
Mon matériau à partir duquel j'ai écrit n'est pas un matériau historique, historiographique, sont vraiment des souvenirs, des perceptions de l'enfance. Donc des odeurs, par exemple, l'odeur de ciment, puisque tout Alger a commencé à monter ses murs, nous aussi. Les murs se sont mis à monter, les fenêtres ont commencé à avoir des barreaux, les portes à se doubler, les étincelles des ouvriers qui ajoutaient des portes. Tous ces souvenirs qui sont très fragmentaires sont des souvenirs d'enfance. Et je suis vraiment partie de ce matériau très concret, très sensoriel aussi, souvent. Et ce centre équestre qui est au cœur du livre et qui est au cœur de cette forêt de Baïnem, où monte Selma, le personnage principal, encore aujourd'hui, quand j'y suis retournée, quand j'étais dans l'écriture de Bientôt les Vivants, le centre équestre est toujours là. Et maintenant, les bâtiments sont délabrés, on voit le trou des balles, les impacts, les tags des terroristes qui se sont réfugiés dans les box. Et donc ce cadre m'a semblé à la fois très emblématique, très nostalgique de ce que c'était que perdre son pays pour moi, puisque j'ai dû partir, et pour beaucoup d'Algériens qui ont dû fuir, mais aussi pour Selma, pour le personnage principal du roman, perdre ce qui était son paradis à elle.
C'est une période qu'il est compliqué d'évoquer encore cette décennie algérienne, qu'il est compliqué d'évoquer en Algérie. Kamel Daoud, qui publie dans la même maison d'édition que vous, le sait bien. Vous comprenez cette difficulté à dire ce qui s'est passé ?
Oui, je pense que quand il y a de grands traumas, c'est toujours très difficile d'en parler. Et que c'est souvent les générations d'ailleurs qui viennent après. On l'a vu par exemple pour une autre guerre civile, la guerre civile espagnole, à laquelle je fais référence dans le poème épigraphe qui est tiré d'un poème de Rafael Alberti, que je conseille à tout le monde d'aller écouter chanté par Paco Ibáñez, A Galopar, parce que c'est magnifique.
C'est magnifique.
Et puis il y a aussi le temps qui fait son effet. Moi, je reviens d'une tournée en Algérie où j'ai pu présenter le livre. Bientôt les vivants a eu une édition, comme vous le savez, hein, Gallimard a été frappé d'interdiction au Salon international du livre. Et moi, j'y suis allée avec mon éditeur algérien, car je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une édition algérienne chez Barzac. Et j'ai pu le présenter dans 5 villes, à l'invitation de l'Institut français. Et je me souviens notamment d'une femme qui m'avait dit « Votre livre, c'est le livre qu'on attendait, c'est celui de votre génération. » Et elle a parlé de ses enfants et elle m'a dit « Mes enfants me reprochent de ne pas avoir parlé de cette guerre. » Et donc, on attend le regard de votre génération sur ce que vous avez vécu enfant et que nous avons vécu adulte, mais que nous n'avons pas pu vous transmettre, peut-être comme nous aurions voulu vous le transmettre, parce que nous voulions surtout vous protéger.
Il y a beaucoup d'Algériens de votre génération aujourd'hui qui travaillent sur cette mémoire. Qu'est-ce que ça permet quand on raconte cette histoire? Vous, qu'est-ce que ça vous a permis de faire?
Dans un monde où les discours politiques, les discours publics sont de plus en plus polarisants, les discours médiatiques polarisent, divisent, je crois vraiment, et je conçois ainsi mon travail d'écrivaine, que l'on peut ressouder les liens entre les gens, mais aussi entre nous, dans ces déchirures qui sont aussi des déchirures intimes, parce que Selma et toute sa famille, les Ben Saïd, sont confrontés à cette déchirure-là, comme l'Algérie a été. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un oncle que vous adorez qui se met à être du côté des islamistes, des terroristes, à les défendre? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des gens que vous adorez, avec lesquels vous partagez des souvenirs forts, qui vous ont construit, des gens auxquels vous devez énormément de ce que vous êtes, mais qui défendent des choses indéfendables? Et vous sentez que si vous continuez à rester proche d'eux, vous vous perdez vous-même. Et j'ajouterais aussi que ce qui était très important, et ça c'était un choix artistique qui présidait à l'écriture de Bientôt les vivants, c'est de rapporter une multiplicité de points de vue. Donc c'est un roman polyphonique, et Hicham, l'oncle de Selma qui épouse peu à peu la cause islamiste, est un personnage conçu également de l'intérieur. Je ne voulais pas que les islamistes soient les autres, je trouvais que c'était trop facile. Et surtout, cette polyphonie, elle permet de ne pas continuer la guerre, en quelque sorte. Je ne voulais pas, par l'écriture, continuer cette guerre civile par les mots, mais bien montrer comment il y avait eu des dizaines, peut-être même des centaines de façons de réagir existentiellement d'abord à ce qu'était cette violence inouïe pendant 10 ans. Donc on parle quand même de 200 000 morts, peut-être plus. Et puis surtout, c'était une violence qui pouvait vous frapper à n'importe quel moment, parce que vous pouviez sortir de chez vous, être assassiné dans le hall d'un immeuble, au volant de votre voiture, devant vos enfants. Enfin, c'était une violence qui était imprévisible. Et ce sentiment d'insécurité-là au quotidien, je crois d'abord qu'on ne s'en défait pas, mais je crois surtout que les gens trouvent des mécanismes de défense très variés pour y survivre.
Merci. Je rappelle le titre du livre, Bientôt les vivants. Ça a obtenu le prix des lycéens de la littérature arabe il y a quelques semaines. C'est publié chez Gallimard. Merci infiniment. A Galopar, interprété par Paco Ibáñez. Nous en parlions il y a un instant avec Amina Damerji.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar.
Paco Ibáñez, A galopar, Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot.
A galopar, hasta enterrarlos en el mar.